Vous écoutez, on lit pour vous.
Âgisme et sexisme. Dès 45 ans, les femmes sont victimes de préjugés sur le marché du travail, selon une étude. Un texte de Martine Lagacé, paru le 17 juillet 2025 dans La Conversation. Elles sont qualifiées, engagées et pourtant souvent invisibles. Les femmes de 45 ans et plus représentent une force croissante sur le marché du travail québécois. Mais leur expérience suffit-elle à les protéger des préjugés liés à l'âge et au genre? Au Québec, on observe une augmentation continue du nombre de personnes âgées de 55 à 69 ans qui demeurent sur le marché du travail, particulièrement chez les femmes. Chez ces dernières, le taux d'activité est, en effet, en croissance constante, particulièrement dans la tranche d'âge de 55 à 59 ans, plus 30 points selon l'Institut de la statistique du Québec. Malgré tout, ce renfort démographique n'est sans doute pas suffisant pour faire oublier les préjugés liés à l'âge et au genre. Mieux comprendre l'expérience des travailleuses d'expérience. En 2024, une étude empirique, pilotée par notre équipe de chercheurs et mandatée par le Comité consultatif pour les travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus, a permis de dresser un portrait nuancé de leur réalité. L'objectif, cerner leur expérience subjective du marché du travail. Comment perçoivent-elles leur emploi? Qu'est-ce qui les motive à continuer? Quels obstacles rencontrent-elles et comment envisagent-elles la retraite? Pour répondre à ces questions, 455 femmes âgées de 45 ans et plus travaillant sur le territoire québécois ont répondu à un questionnaire auto-rapporté. Pourquoi ce seuil d'âge? Car une littérature abondante suggère que dès l'âge de 45 ans, les travailleurs risquent d'être la cible de comportements et de manifestations d'attitudes âgistes. Des 455 participantes, la majorité, 55%, étaient âgées de 45 à 54 ans et plus d'un tiers détenaient une formation universitaire. En outre, 88% de ces femmes se disaient en bonne ou très bonne santé physique et mentale. Les quatre secteurs de travail les plus représentés dans l'échantillon étaient l'éducation, 28,3%, la santé, 19,4%, les ventes et services, 19,2%, ainsi que l'administration, 80%. Enfin, la majorité des participantes, 58%, travaillaient dans le secteur public. Travail valorisant et motivation intrinsèque. Un duo gagnant. La majorité des répondantes, 84%, se disent satisfaites ou très satisfaites de leur emploi, surtout lorsqu'elles sont motivées par des raisons personnelles ou sociales, sentiment d'accomplissement, contribution à une mission, défi stimulant. À l'inverse, celles qui mentionnent la rémunération comme motivation principale se déclarent généralement moins satisfaites. Une tendance qui s'aligne avec la théorie de l'autodétermination. Les motivations extrinsèques, comme l'argent, ne suffisent pas à combler les besoins fondamentaux d'autonomie, de compétences et de liens sociaux. L'âgisme et le sexisme. Bien que la majorité des participantes soient globalement satisfaites de leur emploi, 27% d'entre elles qualifient le marché du travail d'âgiste et ou sexiste envers les travailleurs plus âgés et près de 20% évoquent des obstacles concrets. Voici quelques-uns de leurs commentaires. Dans mon milieu, il y a définitivement un changement face aux femmes de 50 ans et plus. J'ai vu une attitude âgiste chez les hommes qui sont en position d'autorité. La stigmatisation liée au fait d'être une femme affecte la façon dont mes collègues l'aperçoivent dans une certaine mesure. Dur, car l'âge ne joue pas en notre faveur. Le choix est restreint, malgré l'expérience et la maturité. C'est encore un monde où des hommes de 45 ans ont plus de chances d'obtenir des postes de cadre. Cette perception de discrimination, fondée sur l'âge et ou le genre, s'exprime aussi sous la forme d'une fracture générationnelle. Les travailleuses plus âgées se sentent désavantagées et expriment leur frustration en comparant leur situation à celle des plus jeunes, que ce soit pour les façons de faire au travail ou encore pour les conditions de recherche d'emploi. Voici certains témoignages de participantes. Nous sommes en constante compétition. Les employeurs ne veulent pas prendre de risque d'engager une femme de plus de 45 ans. Et la nouvelle génération est très différente. Très honnêtement, je pense qu'il est difficile pour une femme de cet âge de réintégrer le marché du travail après une perte d'emploi. Les retombées de la discrimination fondée sur l'âge. Les résultats de l'étude montrent aussi que les participantes qui se sentent victimes de l'âgisme éprouvent une moins grande satisfaction au travail. Elles sont aussi plus nombreuses à envisager un départ à la retraite à court terme, c'est-à-dire au cours de la prochaine année, par comparaison avec celles qui n'éprouvent pas ce sentiment, soit 12,7% pour les premières et 6,1% pour les secondes. Plus encore, les résultats montrent un lien significatif entre le ressenti d'âgisme et la perception de relations plus difficiles, plus tendues avec les gestionnaires, particulièrement avec les plus jeunes. Il y a beaucoup de micro-gestion, des enjeux de communication, peu d'écoute et de reconnaissance de notre expérience, nous a dit l'une des participantes. Enfin, lorsqu'elles sont questionnées sur l'importance de la transmission de leurs connaissances aux plus jeunes travailleurs, la majorité répond par l'affirmative, 72%. Toutefois, celles qui se perçoivent victimes de l'âgisme témoignent du même coup d'un certain manque de réceptivité des plus jeunes travailleurs à l'égard de ces connaissances, ainsi que d'une dévalorisation de leur expérience par l'employeur. Repenser la culture du travail. Dans l'ensemble, ces résultats, même à partir d'un échantillon restreint, corroborent de nombreuses études montrant la persistance de l'âgisme au travail, doublé pour les femmes, des stéréotypes de genre en dépit de leur expérience. Cette réalité dépeinte par ces femmes, on peut le présumer, pèse sur leur décision d'interrompre malgré elles leur carrière. L'âgisme ciblant les travailleuses d'expérience demeure un phénomène sous-estimé. Ses conséquences sur le bien-être de ces travailleuses, comme pour la santé des organisations, n'en sont pas moins négatives. Or, si l'on veut réellement reconnaître la contribution de ces femmes, il est urgent de repenser la culture de nos environnements de travail dans un esprit d'inclusion et d'équité. Le point de départ pour ce faire n'est autre qu'une prise de conscience de la part des employeurs comme des travailleurs de la prévalence des préjugés âgistes et sexistes et des pratiques discriminatoires qui peuvent en découler. C'était « Âgisme et sexisme. Dès 45 ans, les femmes sont victimes de préjugés sur le marché du travail, selon une étude ». Un texte de Martine Lagacé paru le 17 juillet 2025 dans La Conversation.
Comment bâtir des villes heureuses? Un texte de Nathalie Collard paru le 3 juillet 2025 dans La Presse. C'est en planifiant des espaces qui favorisent la rencontre et le lien qu'on crée des villes où les gens se sentent bien. De passage à Montréal, l'urbaniste et auteur à succès Charles Montgomery explique à notre chroniqueuse comment y arriver. La conférence de Charles Montgomery a commencé par un jeu. Levez-vous, allez vers une personne que vous ne connaissez pas et agissez comme si vous retrouviez un vieil ami après le confinement de la COVID. A lancé l'urbaniste à l'auditoire qui participait au 9e rendez-vous Collectivité viable, un événement annuel organisé par l'organisme Vivre en ville. Montgomery voulait que les participants ressentent dans leur corps l'effet stimulant de l'oxytocine, qu'on nomme aussi l'hormone du lien. Un effet qu'il recherche lorsqu'il imagine, avec sa firme Happy Cities, des espaces qui favorisent les interactions entre les habitants d'un même édifice ou d'un même quartier. Dans son livre « Happy City, Transforming Our Lives Through Urban Design », Montgomery rappelle que la confiance est au plus bas dans les grandes villes. Seulement le tiers des gens sondés croient qu'on leur rapporterait leur porte-monnaie s'ils le perdaient, lance-t-il à l'auditoire réuni au marché Bon Secours au début du mois de juin 2025. Or, une expérience menée par sa firme montre qu'en réalité, plus de 60% des gens rapportent le porte-monnaie perdu. Ce qui fait dire à Montgomery que le lien de confiance est brisé et qu'il faut le réparer. Créer des liens. Plus les villes sont petites, plus la confiance règne, plus ses habitants sont heureux, poursuit l'urbaniste, rencontré en marge de sa conférence. Il faut construire des communautés qui favorisent la confiance. Et la solution vient souvent des gens eux-mêmes. Il suffit d'aller à leur rencontre et de les écouter. Ce ne sont pas les trottoirs ou les rues qui comptent pour les gens, rappelle Montgomery. Ce qui compte, ce sont leurs enfants, le sentiment de sécurité, garder les taxes basses, interagir avec leurs semblables. Quand les gens se posent les bonnes questions, souligne-t-il, ils trouvent eux-mêmes les réponses sur la manière dont la ville doit changer pour atteindre ses objectifs. Je m'attendais à ce que Charles Montgomery me chante les louanges de la consultation publique. Or, il pose un constat assez sévère sur le processus. La consultation publique est brisée depuis des décennies. Le système que les villes utilisent favorise les gens riches, blancs, propriétaires ou retraités. Avec mon équipe, quand on travaille sur l'engagement, on s'assure que les gens qu'on n'entend pas habituellement soient entendus. On n'y arrive pas en leur demandant de venir. Ils ne viendront pas, ils travaillent. Des fois, il faut qu'on les paie pour qu'ils remplissent un sondage. Montgomery donne l'exemple d'un mandat que sa firme a réalisé à Rotterdam, dans le cadre duquel on a invité des jeunes à participer à un projet de photographie autour d'Instagram. Jusque-là, jamais personne ne leur avait demandé leur opinion sur l'utilisation de l'espace public. Les consultations peuvent également créer des distorsions. L'urbaniste cite en exemple la ville d'Oakland, en Californie, où on avait fermé 10 % des rues durant la COVID-19. Les commentaires étaient super positifs, raconte-t-il. On disait « Les résidents d'Oakland se sont réappropriés leurs rues », jusqu'à ce que les communautés soulignent que c'était les Blancs qui profitaient des rues. Nous, les personnes non blanches, on doit se rendre au travail et avoir accès au transport public. Un petit rappel que tout le monde doit avoir sa place à la table. Favoriser l'esprit de groupe. Le lien, ça se construit. Charles Montgomery croit qu'on peut encourager les promoteurs, à l'aide d'un système de récompense, à réserver des espaces conviviaux dans leur projet d'habitation. On peut promettre une approbation plus rapide ou une plus forte densité aux promoteurs qui construisent des salles communes, par exemple, suggère l'urbaniste. Je lui fais remarquer qu'on retrouve souvent de grands salons et des terrasses au sommet des tours de condos. Or, selon lui, les études démontrent qu'ils sont peu ou pas utilisés. Faudra-t-il embaucher des coordonnateurs de vie sociale pour organiser des activités comme je l'ai déjà vu à Copenhague. Il y a une solution encore plus simple, me souffle l'urbaniste. Prévoyez un grand espace commun à même le lobby de l'édifice. Il sera plus accessible, plus invitant. Ensuite, donnez la permission aux gens de prendre le leadership d'organiser des activités. Cuisine collective, jardinage, création d'une murale. Vous verrez, il y aura des résultats. La densification, ce concept devenu très chargé, permet aussi de favoriser les liens et de combattre l'isolement, rappelle Charles Montgomery. Les maisons multigénérationnelles en sont un bon exemple. Or, ajoute-t-il, dans 70 % des villes canadiennes, il est illégal de construire autre chose qu'une maison détachée sur un terrain, tout comme il est impossible d'ajouter des unités supplémentaires. Heureusement, certaines municipalités québécoises ont revu ou songent à revoir leur réglementation à ce sujet. Entre la densification extrême et la banlieue pavillonnaire, il existe un juste milieu qui peut faire le bonheur de tous. En attendant, le bonheur est peut-être plus proche qu'on le pense. Charles Montgomery me confie en avoir ressenti beaucoup durant son court séjour à Montréal. Marcher sur l'avenue du Mont-Royal piétonne, voir les gens se réunir, les enfants courir sans risquer de se faire renverser par une voiture, j'ai trouvé cela enchanteur. C'est une super leçon pour le reste du Canada. Comme quoi, malgré les cônes oranges, la circulation difficile et les grèves dans les transports publics, le bonheur nous pend au bout du nez. Essayons d'en profiter cet été. Qui est Charles Montgomery? Charles Montgomery est un urbaniste et auteur établi à Vancouver. Son livre, Happy City, Transforming Our Lives Through Urban Design, examine l'intersection entre l'urbanisme et la science du bonheur. Il a notamment collaboré avec l'Organisation mondiale de la santé, le musée Guggenheim et des communautés locales au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, aux Émirats arabes unis et en Pologne. Il est membre du sous-conseil pour les villes heureuses du Global Happiness Council. La Société canadienne de météorologie et d'océanographie lui a décerné un prix en 2007 pour sa contribution à la compréhension de la science des changements climatiques. C'était « Comment bâtir des villes heureuses? » Un texte de Nathalie Collard, paru le 3 juillet 2025 dans La Presse.
La Cour suprême, un survol. Un publireportage de Réseau Presse et de l'Alliance des radios communautaires du Canada, paru le 9 juillet 2025 dans l'Eau vive. 150 ans de la Cour suprême du Canada. Après la Confédération, l'idée de doter le Canada d'une Cour suprême a suscité des débats houleux à la Chambre des communes. Mais le 8 avril 1875, le Parlement finit par s'entendre et fonde la Cour suprême du Canada. La Cour suprême se penche sur les causes portées en appel de plein droit, comme les affaires criminelles entendues par une autre magistrature qui n'a pas rendu un jugement unanime. Le plus haut tribunal du pays se penche sur d'autres causes, en provenance d'autres cours d'appel au pays, comme celles des provinces et des territoires. Les dossiers sont soumis et un panel de juges détermine lesquels feront avancer le droit ou posent une question d'intérêt public. Ceux-ci, généralement moins de 10 % des dossiers soumis, passeront à la prochaine étape. Demande à la Cour de 2010 à 2024. 7664 demandes reçues, 683 demandes acceptées, 9 %. Les jugements. La Cour suprême reçoit des dossiers d'autres cours d'appel du Canada, comme celle des provinces et des territoires. À titre de plus haut tribunal du pays, elle doit accueillir les causes portées en appel de plein droit, pour lesquelles une autre cour n'a pas rendu un jugement unanime. Appel entendu de 2010 à 2024. 934 appels en tout. 265 de plein droit, 28 %. Dans les autres cas, la demande est étudiée par un panel de juges. La Cour suprême ne retient que les dossiers qui feront avancer le droit ou qui posent une question d'intérêt public. Résultat, moins de 10 % de ces demandes sont retenues. Les jugements peuvent être rendus de deux façons, à l'audience ou après délibéré. Jugement rendu de 2010 à 2024. 218 à l'audience, 23 %. 737 après délibéré, 77 %. Les juges. Depuis 1875, 92 juges ont siégé à la Cour suprême. Ils et elles ont rendu plus de 11 735 décisions. La Cour suprême compte 9 juges. Lorsque l'ensemble des juges s'entend sur les motifs d'un jugement, on le qualifie d'unanime. Cependant, lorsqu'il y a désaccord, le jugement est rendu avec dissidence. L'objet du désaccord est alors expliqué dans la décision. Jugement rendu de 2010 à 2024. 581 unanime, 61 %. 374 avec dissidence, 30 %. Afin d'assurer une bonne représentation, 3 juges doivent obligatoirement venir du Québec, soit de la tradition du droit civil héritée de la France. Les 6 autres juges viennent de la tradition de la common law britannique. Outre les 3 juges du Québec, la Cour en compte actuellement 3 de l'Ontario, dont la franco-ontarienne et abénaquise Michelle O'Bonsawin, 2 de l'Alberta, dont la franco-albertaine Mary Moreau, et 1 de Terre-Neuve et Labrador. Depuis 1875, le mandat d'un ou d'une juge dure en moyenne 12 ans. C'était la Cour suprême, un survol, un publireportage de Réseau Presse et de l'Alliance des radios communautaires du Canada paru le 9 juillet 2025 dans l'Eau vive.
« 23 % des infrastructures de Montréal sont en mauvais état. » Un texte de Marco Fortier paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir. Des investissements de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans sont nécessaires pour remettre en état les infrastructures vieillissantes de Montréal, comme les routes, les aqueducs ou les casernes de pompiers, mais il manque 631 millions de dollars dans les prévisions budgétaires de la ville pour venir à bout de ce déficit de maintien d'actifs. Les infrastructures municipales sont dans un état généralement satisfaisant, soit correspondant à la note de C sur une échelle de A à E, indique un document de la ville déposé au conseil municipal. Près du quart, 23 % des actifs se trouvent toutefois dans un état mauvais, D, ou très mauvais, E, révèle ce portrait annuel sur la connaissance de l'état des actifs de la ville de Montréal. Le jardin botanique, véritable joyau de la métropole, est un des actifs dont l'état est le plus préoccupant, recevant la note E. Les ateliers, les garages et les cours de voirie, ainsi que les centres communautaires sont aussi parmi les infrastructures municipales les plus mal en point, tout comme les 149 stations de pompage des eaux usées réparties sur le territoire de la métropole. Parmi les infrastructures en état insatisfaisant, les casernes de pompiers, les 7 écocentres de la ville, les chalets de parcs municipaux, les patinoires extérieures et certains équipements en technologie de l'information se trouvent aussi en mauvais état, comme en témoigne leur cote moyenne de D attribuée par les services de la ville. Le programme décennal d'immobilisation de la ville prévoit des investissements de 1,9 milliard de dollars dans les 10 prochaines années pour résorber le déficit d'entretien de 2,5 milliards. Il manque ainsi 631 millions de dollars dans les dépenses planifiées pour venir à bout de ce déficit de maintien d'actifs, note le document de la ville. L'administration Plante rappelle qu'elle a hérité de décennies de négligence dans l'entretien des infrastructures municipales. Les villes ont l'obligation légale d'équilibrer leur budget. Les élus municipaux doivent faire des choix déchirants avec des ressources financières limitées, fait valoir Émilie Thuillier, responsable des infrastructures au comité exécutif de la ville. Les villes n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions. Il y a un équilibre à trouver entre répondre à de nouveaux besoins et rénover l'existant, dit l'élu municipal, qui est aussi mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Elle rappelle que la ville ne peut pas tout faire en même temps et doit aussi planifier les chantiers pour limiter les entraves à la circulation. Actifs stratégiques. Alan de Souza, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, estime de son côté que l'équipe de Valérie Plante a mal compris la pertinence de cet outil de gestion. Certaines catégories d'actifs, comme ceux du service de l'eau ou du réseau routier, se trouvent dans un état relativement satisfaisant, avec des cotes de B ou C, mais nécessitent une attention particulière, selon lui. Ce sont des actifs stratégiques dont il faut prendre soin, dit cet élu du parti Ensemble Montréal, qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville. Il rappelle que la ville a tout avantage à investir massivement dans les infrastructures d'eau, vu les pluies diluviennes qui s'abattent régulièrement sur la métropole. Il s'agit non seulement d'éviter aux Montréalais les refoulements d'égouts qui inondent les sous-sols, mais aussi de faire économiser à la ville des millions de dollars en poursuite de citoyens sinistrés. C'était 23% des infrastructures de Montréal sont en mauvais état, un texte de Marco Fortier paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir.